Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Permettez-moi de vous ramener à 2 Pierre dans le temps que nous avons, plus bref que d'habitude ce soir. 2 Pierre, chapitre 1. Nous avons commencé une étude de cette grande épître, et en particulier les 11 premiers versets. Dans ces 11 premiers versets, Pierre parle de la question de notre salut. Alors que nous entrons dans les versets 5 à 11, il est soucieux de s'assurer de notre appel et de notre choix. La question en discussion ici est celle de l'assurance du salut. Il est question de ce que personne ne devienne aveugle ou myope, selon le verset 9, ayant oublié sa purification. Il veut que nous soyons diligents pour nous assurer de notre appel et de notre choix. C'est donc une question d'assurance. Avant d'entrer dans le texte lui-même au verset 5, je voulais vous le présenter en considérant le sujet de l'assurance dans une perspective scripturaire plus large. En tant que pasteur, je vous répète que c'est triste de se rendre compte que tant de personnes n'ont pas l'assurance du salut. Ils n'ont pas l'assurance qu'ils sont vraiment pardonnés pour leurs péchés et qu'ils ont éternellement une place garantie dans le ciel. Aussi triste que cela soit, c'est un fait. C'est celui avec lequel les pasteurs traitent tout le temps. Beaucoup de personnes se demandent s'ils sont vraiment sauvés. Thomas Brooks a écrit en 1654 ces mots dans un livre merveilleux appelé Heaven on Earth, le paradis sur terre. Voici ce qu'il a dit. L'assurance est l'arche du croyant, où il est assis comme Noé, calme et immobile, au milieu de toutes les distractions et destructions, les commotions et les confusions. Fin de citation. Dans ce même excellent livre, il a également écrit « La plupart des chrétiens vivent entre les peurs et les espoirs. Ils sont suspendus, pour ainsi dire, entre le ciel et l'enfer. Parfois, ils espèrent que leur état est bon. D'autres fois, ils craignent que leur état ne soit mauvais. Maintenant, ils espèrent que tout va bien et que cela ira bien avec eux pour l'éternité. Et ensuite, ils craignent de périr par la main d'une telle corruption ou par la prévalence de celle-ci à la tentation. Ils sont donc comme un navire dans une tempête, emporté à tout vent. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est un fait. Tout cela en dépit de la vérité que les croyants sont les élus de Dieu, ceux que Dieu a choisis, comme Brooks les appelle, les élus et les choisis. En dépit du fait que nous sommes les principaux instruments dont Dieu se sert pour porter son meilleur, son plus grand travail, contre son pire et plus grand ennemi. En dépit du fait que les croyants sont cachés avec Christ en Dieu, et gravé sur les paumes du Seigneur, en dépit du fait que nos noms sont écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde, en dépit du fait que les croyants sont des enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers de Christ, scellés du Saint-Esprit, et oints ainsi par Dieu, en dépit du fait que les croyants sont les épîtres très vivantes du Christ, connus et lus par tous les hommes, en dépit du fait que les croyants reçoivent toutes les bénédictions dans les cieux, la grâce, la miséricorde, le pardon, l'amour et la bonté superabondants. En dépit du fait que les croyants ont la paix avec Dieu, l'amour de Dieu s'est répandu dans leur cœur, qu'ils ont une position suffisante dans la grâce et une espérance dans la gloire éternelle. En dépit du fait que les croyants ont vaincu le monde, ont reçu des noms éternels par le Christ, des noms d'affection et d'honneur, et qu'ils ont été érigés en piliers dans le temple de Dieu, et ont reçu la promesse de robe royale et de justice éternelle, malgré toutes les miséricordes somptueuses et toutes les bénédictions que Dieu leur a accordées, beaucoup s'interrogent encore sur la sécurité de leur salut et manquent d'assurance.
Pourquoi ? Pourquoi le font-ils ? C'est précisément la question à laquelle nous essayons de répondre. En fait, le but de cette série est de vous amener dans cette arche, où vous, au milieu de la dévastation et de la destruction, de la confusion et de l'agitation, pouvez profiter de votre assurance. La semaine dernière, nous avons cité 3 raisons pour lesquelles les personnes manquent d'assurance. Permettez-moi de les revoir un instant. Premièrement, certains pourraient manquer d'assurance parce qu'ils écoutent de fortes prédications qui parlent de la sainte norme de Dieu.
Nous avons remarqué la dernière fois
que nos confrontations puissantes produisent des cœurs inquiets. Cela pique la conscience, et celle-ci ne connaît ni pitié ni pardon. Certaines personnes doutent parce qu'elles entendent une prédication si forte, et quand il y a du péché dans leur vie, cela crée un doute. Deuxièmement, certains peuvent manquer d'assurance, car ils ne peuvent accepter le pardon. Ils sont tyrannisés par leurs émotions, se sentant trop mauvais pour être pardonnés. Ils sont fixés sur la sainteté de Dieu, fixés sur la haute loi de Dieu. Ils se concentrent sur la justice de Dieu qui ne connaît aucune pitié, et ils ne croient pas qu'ils peuvent être pardonnés. En fait, ils ont couronné le diable, l'acceptant comme roi. Ainsi, il a vaincu le Christ, car celui qui ne pardonnera pas a vaincu celui qui pardonnera dans son esprit. Ils croient que la condamnation de Satan est suffisante, mais la grâce du Christ ne suffit pas pour couvrir leurs péchés. Ainsi, dans un blasphème, en quelque sorte, ils se considèrent comme impardonnables, et de ce fait, ils exaltent Satan au-dessus de Christ, et c'est une réalité effrayante.
Thomas Brooks dit à cet égard,
nous ramenant aux Écritures, « Manassé est sauvé, ô âme désespérée, les armes de la miséricorde sont ouvertes pour recevoir un Manassé, un monstre, un diable incarné. Il a fait scier ce prophète Ésaïe en deux, comme disent certains rabbins. Il se détourna du Seigneur pour commettre l'idolâtrie, fit passer ses fils par le feu, traita avec des esprits familiers, et fit couler dans les rues de Jérusalem du sang innocent. L'âme de Marie-Madeleine était pleine de démons, et pourtant le Christ les chassa, et fit de son cœur sa maison, sa chambre de présence.
Pourquoi dites-vous donc qu'il n'y a aucun espoir pour vous, ô âme désespérée?
Paul était plein de rage contre Christ et son peuple, plein de blasphème et d'impiété, et pourtant voici, Paul devient un navire choisi. Paul est appelé du ciel et rempli de dons et des grâces du Saint-Esprit. Pourquoi devriez-vous alors dire qu'il n'y a pour vous aucune aide, ô âme désespérée, bien que le prodigue ait fui son père, et dépensé et gaspillé tous ses biens dans des voies de bassesse et de méchanceté? Et pourtant, sur sa résolution de revenir, son père le rencontre, et au lieu de le tuer, il l'embrasse. Au lieu de le frapper, il l'embrasse. Au lieu de lui fermer la porte, il lui fait une somptueuse fête. Comment osez-vous donc dire, ô âme désespérée, que Dieu ne vous jettera jamais un regard d'amour, ni ne vous accordera une miette de miséricorde? L'apôtre vous parle de quelques méchants monstrueux qui étaient injustes, fornicateurs, idolâtres, adultères, efféminés, abuseurs d'eux-mêmes avec l'humanité, voleurs, cupides, ivrognes, injurieux, extorqueurs, et pourtant ces monstres de l'humanité, à travers l'infinie bonté et la grâce gratuite de Dieu, ont été lavés de la saleté et de la culpabilité de leurs péchés, justifiés par la justice de Christ, sanctifiés par l'Esprit de Christ, parés et ornés des grâces de Christ. Par conséquent, ne dites pas, écrit Brooks, ô âme désespérée, vous mourrez dans vos péchés, et vous vous allongerez enfin dans une douleur éternelle. Cela a-t-il fait l'honneur et la gloire de sa grâce gratuite de leur pardonner? Est-ce que ce serait un reproche à sa grâce gratuite de vous pardonner? Dieu pourrait-il être juste s'il justifie ses impies, et sera-t-il injuste de vous justifier? Leur indignité, leur inaptitude à la miséricorde, ont-ils détourné le flot de la miséricorde? Non. Pourquoi alors, ô âme désespérée, devriez-vous craindre que votre indignité et votre inaptitude à la miséricorde ne s'arrêtent et ne tournent le courant de la miséricorde, comme si vous deviez périr éternellement, faute d'une goutte de grâce et de miséricorde spéciale? Vous comprenez ce qu'il dit? Donc nous nous rappelons que certaines personnes manquent d'assurance, car elles éprouvent des difficultés émotionnelles à croire qu'elles pourraient être pardonnées. Troisièmement, et là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, certains pourraient manquer d'assurance parce qu'ils ne comprennent pas l'Évangile et le plan du salut. Ils ne le comprennent pas. Toute la réalité de la vérité évangélique et de l'œuvre du Christ n'est pas saisie. Ils ne comprennent pas, par exemple, la pleine suffisance de la mort de Jésus-Christ pour le péché. Ils ne comprennent pas l'étendue de la grâce, l'étendue de la miséricorde, l'étendue du pardon. Ils ne comprennent pas comment la justice de Dieu est pleinement et complètement satisfaite dans la mort de Christ. S'ils comprenaient la vérité de l'Évangile, ils pourraient jouir d'une assurance. Avec les Arminiens, ceux qui croient que vous pouvez perdre votre salut, C'est cet échec même qui détruit leur assurance, parce qu'ils croient que l'homme est un partenaire de Dieu dans le salut. Ils ne peuvent donc pas avoir un salut sûr, car l'homme peut violer son partenariat, puisqu'ils croient que les hommes doivent accomplir pour maintenir leur salut. L'assurance est impossible, parce que vous ne pouvez pas faire confiance à l'homme, même si vous pouviez faire confiance à Dieu. Vous ne pouvez pas faire confiance à l'homme. Donc vous ne pouvez pas faire confiance au salut. Pour l'arminien, au mieux, l'assurance est un moment de ressentiment, donc instable. Ce genre d'assurance qui se révèle dans les cris et les chants, dans les réunions de réveil, où l'hystérie charismatique n'est pas fiable, cela se transforme facilement en un sentiment de dépression, et même un sentiment de désespoir, car s'il est construit sur un salut dans lequel je suis partenaire, je peux violer cela. Si vous croyez que vous pouvez perdre votre salut, vous ne pouvez jamais avoir une assurance totale, mais si l'Évangile est compris, l'assurance de la promesse de l'Évangile peut être appréciée. Nous avons remarqué la dernière fois que l'assurance est une conviction personnelle, rationnelle et non émotionnelle. Il est construit sur des faits. Il est construit sur la réalité historique de ce que Jésus-Christ a accompli. Ce n'est pas un sentiment sans raison, ni un sentiment induit par l'émotion. Il est construit sur la compréhension que le salut est complet et éternellement sûr, et vous devez commencer par cette compréhension de l'Évangile, où vous ne pouvez jamais connaître une assurance complète. Maintenant, souvenez-vous des définitions que nous avons faites. La sécurité est le fait révélé par le Saint-Esprit que le salut est éternel. La sécurité est le fait révélé par le Saint-Esprit que le salut est éternel. L'assurance est la confiance que je possède en ce salut. Mais je ne peux jouir d'une assurance que si je comprends ce salut, qui est sûr. Le sentiment que je suis en possession d'un salut qui n'est pas sûr ne me donne aucune assurance. Le fait de savoir que le salut est assuré ne me donne pas d'assurance si je ne sais pas que j'ai ce salut. Tout doit donc être construit sur le fait. Maintenant, il y a un élément de vérité évangélique que je veux mentionner spécifiquement pour compléter ce troisième point, en raison de son rôle majeur dans la question de l'assurance. Je pourrais parler de la croix, et nous pourrions aborder toutes les questions de l'œuvre de Christ sur la croix, l'œuvre merveilleuse et miraculeuse de Christ là-bas, et comment elle a acheté notre salut éternel. Mais je veux plutôt regarder un élément très important, et c'est la résurrection. Quittons la croix un instant pour passer à la résurrection. Je veux que nous nous concentrions sur elle, car je crois que c'est le cœur et l'âme pour comprendre le fait de la sécurité, qui est le fondement même de l'assurance. La résurrection. Marquez ceci très attentivement dans votre esprit. La résurrection de Jésus-Christ était la preuve positive que l'œuvre du Seigneur sur la croix a produit un salut qui est éternellement assuré. Est-ce que vous avez compris cela? La résurrection est la preuve positive que l'œuvre du Seigneur sur la croix avait opéré un salut qui était éternellement assuré. La clé de la sécurité est donc la clé de l'assurance. La pierre angulaire de tout cela, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Vous dites pourquoi? Tout d'abord, cela atteste la véracité de ses affirmations. Il a dit qu'il était Dieu. Il est ressuscité des morts pour le prouver. Il a dit qu'il était venu pour accomplir l'œuvre du salut. Dieu l'a ressuscité des morts pour approuver son œuvre et affirmer qu'effectivement, il l'avait accompli. S'il ne sortait pas de la tombe, il n'était pas ce qu'il prétendait être. Ou il n'a pas fait ce qu'il prétendait faire. C'est le résultat final. S'il était Dieu, il avait le pouvoir sur la mort. Et s'il accomplissait parfaitement l'œuvre rédemptrice, et que le Père le ressuscitait des morts, alors nous avons la certitude que le salut a été pleinement accompli. Tout ce que Jésus a réclamé, et tout ce qu'il est venu faire est validé par la résurrection. Cela montrait le pouvoir de Dieu sur la mort pour les pécheurs. En fait, lorsque vous lisez sur le pouvoir manifesté en Christ, il est généralement associé à sa résurrection. Dans Éphésiens 1, l'apôtre Paul prie pour que nous soyons éclairés. Au verset 18. Et pour que nous connaissions, verset 19, la grandeur supérieure de sa puissance. Quel est ce pouvoir? La puissance par laquelle Dieu l'a ressuscité des morts et l'a assis à sa droite dans les lieux célestes. La puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus est la même puissance qui vivifie les morts spirituellement. La résurrection est un fait historique qui montre que Dieu peut ressusciter celui qui porte le péché des morts et l'exalter. Dans Romains 4, 25, il est dit qu'il a été livré à cause de nos transgressions et ressuscité pour notre justification. Il a été livré à la mort à cause de notre péché et il a été ressuscité pour notre justification. S'il a complètement couvert nos péchés, notez-le, s'il a complètement couvert nos péchés dans sa mort, Il a complètement assuré notre vie éternelle dans sa résurrection. Aussi complètement que sa mort a couvert notre passé, sa résurrection a fait de même avec notre avenir. Le jeune converti a raison quand il dit « Si quelqu'un devait être gardé hors du ciel pour mes péchés, ce serait Jésus, car il les a tous pris sur lui. Mais cela ne peut pas arriver parce qu'il est déjà au ciel. Alors maintenant, je sais que je suis en sécurité. Tu comprends son raisonnement? Si Jésus a pris tous mes péchés et a payé la pénalité pour eux, et Dieu l'a pris dans son ciel, alors Dieu me prendra dans son ciel, car Jésus a payé les péchés. Si quelqu'un doit être tenu responsable de mes péchés, ce n'est pas moi. C'est celui qui a dit qu'il les avait pris sur lui. Puisque cela a déjà été réglé, comme il est déjà assis à la droite de Dieu, je serai également assis là aussi. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous inquiéter. Peu importe à quel point nous sommes pécheurs, nous pouvons être pardonnés. 2 Timothée 1,9 dit « Dieu qui nous a sauvés
et nous a adressé une sainte vocation,
non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il a aboli la mort, il a apporté l'immortalité, non seulement, évidemment à lui-même, mais à nous. Il est donc essentiel pour nous de comprendre que, dans la mort du Christ, la peine du péché est totalement payée dans la résurrection du Christ. Vous avez cette affirmation de ce paiement total. Et si mes péchés sont totalement payés,
il n'y a aucun péché qui pourrait me garder loin du ciel.
Ainsi, une compréhension objective du pardon complet, fourni dans la mort et la résurrection parfaite de Christ, est le fondement de la sécurité. Et la sécurité est le fondement de l'assurance. Si je crois que l'Évangile est vrai, et que je crois l'Évangile, alors je peux jouir de mon assurance. Maintenant, permettez-moi d'aller plus loin. Par conséquent, l'assurance est inhérente dans une certaine mesure, bien sûr, à la sauvegarde de la foi. C'est vrai. 1 Jean 5,13 dit « Je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Je veux que vous sachiez que votre croyance est inhérente à votre assurance. »
Parce que ce en quoi vous croyez
est un salut sûr. La révélation du fait historique et l'essence de la foi salvatrice sont donc la base de l'assurance. Nous pouvons chanter avec le compositeur « Quelle base solide, vous les saints du Seigneur, avez basé votre foi en son quoi, son excellente parole. C'est là que vous allez pour obtenir votre assurance. Vous avez un fondement solide pour votre foi en son excellente parole. » Donc, si nous comprenons l'Évangile, son caractère éternel, la pleine suffisance du sacrifice de Christ, comme en témoignent la résurrection et l'ascension de Christ, sa réception à la droite du Père, nous pouvons comprendre que nous avons un salut sûr dans lequel tous nos péchés sont payés,
et nous n'avons pas à craindre d'être en insécurité.
Si nous croyons en cette véritable œuvre de Christ et en Christ, alors nous pouvons savoir et être assurés. Donc certaines personnes manquent d'assurance parce qu'elles écoutent une prédication forte, prêchant un standard élevé et saint, et parce qu'il y a du péché dans leur vie. Elles sentent qu'elles ne sont pas sauvées, ou elles doutent de leur salut. Certaines personnes ne bénéficient d'aucune assurance parce qu'elles ne peuvent pas accepter le pardon. Elles se croient trop mauvaises, et elles couronnent donc le roi Satan plutôt que Christ. Elles peuvent recevoir la condamnation mais pas la grâce. Puis certaines personnes doutent de leur salut, franchement, parce qu'elles ne comprennent pas l'œuvre salvifique du Christ. Je vais vous dire que les églises de notre monde sont remplies de personnes comme cela, qui ne sont pas sûres de leur salut, parce qu'elles ont un salut précaire pour commencer. Permettez-moi de vous donner une quatrième raison pour laquelle les personnes manquent d'assurance. Certaines manquent d'assurance, car elles ne connaissent pas l'heure exacte de leur salut. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Elles ne se souviennent pas quand elles ont cru. Elles ne se souviennent pas du moment de leur salut. Parce qu'elles ne se souviennent pas quand c'était, elles ne savent pas si cela a eu lieu. C'est comme si l'on disait, « Parce que je ne me souviens pas de mon anniversaire, je ne suis pas sûr d'être en vie. » Ou, « Parce que je ne me souviens pas quand mon avion a atterri, je ne sais pas si je suis ici. » Nous avons fait un tel fétichisme du moment de la décision. Nous avons tellement isolé et identifié cette petite formule et cette petite prière que vous priez à un moment donné comme étant le moment du salut, que si vous n'avez pas eu ce petit moment, ou vous n'avez pas signé une carte, ou levé la main, ou marché dans une allée, ou prié votre prière, ou fait votre petite formule, vous ne pouvez pas identifier quand cela s'est produit, alors peut-être que cela ne s'est jamais produit. Je me souviens d'un homme qui me disait « Dimanche dernier, j'ai réglé mon salut. » J'ai dit « Comment avez-vous fait cela ?» Il était ici dans l'église. Il a dit, sur le chemin du retour, « Je me suis arrêté sur le boulevard Roscoe, et comme je ne me souvenais jamais du moment où j'ai été sauvé, je ne me suis donc jamais senti sauvé. Donc je suis sorti de ma camionnette. Il était dans une camionnette. A-t-il dit, je suis allé sur le trottoir, l'herbe entre la bordure du trottoir et le trottoir, et j'ai sorti un morceau de bois, que j'ai martelé pour l'enfoncer dans le sol. Et en même temps j'ai dit, c'est, je pense que c'était en juin de l'année dernière. C'est ce jour de juin, et c'est le jour où je consacre ma vie à Jésus-Christ. Maintenant je sais que je suis sauvé, parce que je sais quand j'ai fait cela. J'ai donc dû relever mon pieu, métaphoriquement. Mais il y a des personnes qui ont été tellement surexposées à une approche décisionnelle, ou à ce que vous pourrez appeler une régénération décisionnelle. Il y a un moment mystique où vous faites votre petite formule, et vous êtes zappé par Dieu. Maintenant, pour certaines personnes, il y a un moment dans le temps. Évidemment, pour beaucoup de personnes, il y a eu un moment très décisif où ils ont exercé leur foi en Jésus-Christ. Mais pour beaucoup de personnes, en particulier ceux qui ont grandi dans un environnement chrétien, elles ne peuvent pas identifier cette transformation, elles ne peuvent pas identifier ce moment, car elles ont toujours cru. Les personnes me demandent souvent « Avez-vous été chrétien toute votre vie ?» Ma réponse standard est « Pas encore. Ma vie n'est pas encore terminée. C'est encore dans le futur. » En allant dans l'autre sens, je ne me souviens pas d'un moment où je ne croyais pas. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas chrétien. Il y a ceux qui enseignent même aujourd'hui que le souvenir d'un tel événement passé est la base réelle et légitime de l'assurance d'un croyant. En fait, si vous ne vous souvenez pas de cet événement, vous pourriez ne pas être sauvé. L'heure exacte n'est pas la question, pas du tout. Mais cela créera un manque d'assurance si les personnes se concentrent sur un moment particulier et que si vous ne vous souvenez pas de l'événement, vous n'êtes peut-être pas chrétien. Un écrivain contemporain dit « Le seul point d'assurance légitime pour notre salut est l'événement passé. Le fait de connaître l'heure exacte n'est pas un problème. Je ne me souviens pas du moment où j'ai été sauvé. Je ne sais pas quand je suis passé de la mort à la vie. Mais je sais que c'est arrivé. Je ne connais pas un moment où je ne croyais pas. Je n'ai jamais traversé une période de révolte ouverte et flagrante contre Dieu. J'ai eu un accident de voiture quand j'étais étudiant en première année à l'université. Mais je ne peux pas dire que c'était le moment de mon salut. Je me souviens avoir fait une prière avec mon père sur les marches d'une église, dans l'Indiana, alors qu'il tenait une réunion de réveil. Son sermon m'a condamné parce que j'avais fait certaines choses cette semaine qui n'étaient pas correctes. Je ne sais pas si c'est le moment où je suis passé de la mort à la vie. Il y avait des moments quand j'étais petit, quand je faisais des prières. Il y a eu des moments en tant qu'adolescent, quand je suis allé au camp, et je me souviens qu'en tant qu'enfant de 14 ans, je me suis avancé pour jeter une pomme de pin dans le feu, les yeux larmoyants, voulant donner ma vie bien à Dieu. Je ne sais pas quand je suis passé de la mort à la vie. Je sais que je l'ai fait, mais je ne cherche pas un événement passé pour le rendre réel. Je cherche un mode de vie actuel. Il y a certaines personnes, à ce stade particulier, qui ont une fausse assurance, parce qu'elles peuvent se souvenir d'un événement passé. Mais la réalité est qu'il n'y a pas de changement de vie actuel. Cinquièmement, une autre raison pour laquelle certaines personnes manquent d'assurance est qu'elles ressentent encore fortement la chair et se demandent si elles ont une nouvelle nature. Elles sentent si fort l'attraction de la chair non rachetée. Vous voyez, nous sommes une nouvelle création incarcérée dans une chair non rachetée, une humanité non rachetée. Nous attendons la rédemption de notre corps lors de la glorification, lorsque Christ reviendra, et que nous aurons ce que la Bible appelle la glorieuse libération des enfants de Dieu, et nous serons libérés de notre chair non rachetée. Mais tant que nous menons la bataille de Romains 7, que nous ne faisons pas ce que nous voulons faire, et que nous faisons ce que nous ne voulons pas faire, et tant que nous voyons la chair nous faire la guerre, il est possible pour nous de se demander si nous sommes des possesseurs d'une nouvelle nature, parce que nous ressentons si fortement l'attraction de la chair. C'est vraiment ce que je pense que Pierre a en tête ici quand il dit « Si vous n'avez pas certaines qualités dans votre vie, verset 8, alors vous allez perdre la confiance que vous avez été purifié. Si le péché vous accable à tout moment, vous manquerez d'assurance. Vous aurez du mal avec cela. Et les personnes se demandent parfois « Est-ce que je me suis suffisamment repenti? Suis-je assez désolé pour mon péché? Ai-je assez de foi ?» Ce qu'ils font, c'est se concentrer sur la chair non rachetée, plutôt que sur la nouvelle vie. Vous pouvez lire Romains 7 de deux manières, ou de trois façons, je suppose. Vous pouvez le lire de deux manières déséquilibrées, et d'une manière équilibrée. Vous pouvez le lire, ou tout ce que cela dit. C'est ce que je ne fais pas, ce que je devrais faire, et que je fais ce que je ne devrais pas faire. Vous pouvez le lire, et dit que c'est en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Et vous pouvez lire, misérable homme que je suis. Vous pouvez devenir introspectif. Vous pouvez simplement continuer à regarder les ordures et le péché de la chair. Et vous obtenez une perspective déformée. Vous exagérez littéralement votre condition. Vous pouvez regarder les choses d'une autre manière déséquilibrée. Je prends plaisir à la loi de Dieu après l'homme intérieur. Et il y a un principe en moi qui désire faire plaisir et faire la volonté de Dieu. Et vous savez tout cela. Vous pouvez le lire dans l'autre sens et dire « Oh, regarde, toutes ces bonnes choses sont en moi. »
Mais vous devez le lire d'une façon équilibrée.
Si vous voyez en vous la volonté de faire ce qui est bien, l'amour de Dieu, la haine du péché, le désir d'obéir, la joie dans la parole, même si vous voyez la chair, la bataille est révélatrice de la nouvelle nature en guerre contre la chair. Mais si vous devenez préoccupé par la chair et que vous devenez victime de la chair, là où le péché commence à vous dominer,
vous allez lutter avec cela. Se concentrer sur la chair n'est pas une chose saine à faire.
Écoutez ce que le docteur Ironside a dit. Maintenant testez-vous de cette façon.
Vous avez déjà vécu dans le péché, et vous l'aimiez.
Désirez-vous maintenant en être délivré? Vous étiez autrefois sûr de vous et confiant, en votre propre bonté fantaisiste. Vous jugez-vous maintenant pécheur devant Dieu? Vous avez une fois cherché à vous cacher de Dieu, et vous êtes rebellé contre son autorité. Le regardez-vous maintenant désireux de le connaître et de vous soumettre à lui? Si vous pouvez honnêtement dire oui à ces questions, vous vous êtes repenti. Votre attitude est tout à fait différente de ce qu'elle était autrefois. Vous confessez que vous êtes un pécheur, incapable de nettoyer votre propre âme, et que vous êtes prêt à être sauvé, à la manière de Dieu. C'est du repentir. Rappelez-vous, ce n'est pas la quantité de repentir qui compte. C'est le fait que vous vous êtes détourné de vous-même, vers Dieu, qui vous met à l'endroit où sa grâce prévaut à travers Jésus-Christ. À strictement parler, il dit, « Aucun d'entre nous ne s'est jamais suffisamment repenti. Aucun de nous n'a réalisé l'énormité de notre culpabilité, telle que Dieu la voit. Mais lorsque nous nous jugeons et faisons confiance au Sauveur qu'il a pourvu, nous sommes sauvés par ses mérites. En tant que destinataire de sa bonté de cœur, le repentir sera approfondi et se poursuivra de jour en jour,
à mesure que nous apprendrons de plus en plus
son infinie dignité et notre propre indignité, a-t-il ajouté. C'est très utile. Testez-vous. Avez-vous les impulsions de la nouvelle nature? Cela indique le salut. Vous voudrez peut-être rappeler à quelqu'un qui se demande s'il a vraiment été sauvé, parce qu'il voit tant de péchés dans sa vie, ce magnifique vieil hymne écrit par Horatius Bonnard. J'étais un mouton égaré. Je n'aimais pas la bergerie. Je n'aimais pas la voix de mon berger. Je ne me laissais pas contrôler. J'étais un enfant capricieux. Je n'aimais pas ma maison. Je n'aimais pas la voix de mon père. J'aimais errer au loin. Le berger a cherché ses brebis. Le père a cherché son enfant. Il m'a suivi par-dessus vallons et collines, à travers des déserts sauvages. Il m'a trouvé presque mort, affamé, faible et seul. Il m'a lié avec des bandes d'amour. Il a sauvé les rangs. Jésus, mon berger, c'est celui qui aimait mon âme. C'est celui qui m'a lavé par son sang. C'est celui qui m'a guéri. C'est celui qui a cherché les perdus, qui a ramené les brebis errantes. C'est lui qui m'a ramené au bercail. C'est lui qui me garde encore. J'étais un mouton errant. Je refusais de me laisser contrôler. Mais maintenant, j'aime la voix de mon sauveur. J'aime la bergerie. J'étais un enfant capricieux. J'ai préféré errer auparavant. Mais maintenant, j'aime la voix de mon père. J'aime sa maison. C'est la différence. Le changement d'attitude me donne l'assurance de cœur que je suis maintenant l'enfant de Dieu par seconde naissance. Et quelle que soit la force d'attraction du péché, cela existe également. La volonté de Dieu est devenue ma plus haute joie, et la soumission à sa Seigneurie mon plus grand plaisir. Certains manquent d'assurance en raison d'une forte conviction venant de la prédication. Certains manquent d'assurance en raison d'une incapacité à accepter le pardon. Certains manquent d'assurance parce qu'ils ne comprennent pas la riche vérité de l'Évangile. Certains manquent d'assurance à cause d'une incapacité à se souvenir du moment de leur conversion. Certains manquent d'assurance à cause du pouvoir de leur chair non rachetée. Numéro 6, et c'est tellement important.
Certains manquent d'assurance parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu dans toutes leurs épreuves. Certains manquent d'assurance parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu dans toutes leurs épreuves. Je ne peux pas vous dire combien de personnes j'ai entendu dire à travers mon ministère « Comment Dieu pourrait-il m'aimer et me laisser traverser cela ? Comment Dieu pourrait-il m'aimer et prendre mon mari ? Comment Dieu pourrait-il m'aimer et prendre ma femme ou mon enfant ? Comment Dieu pourrait-il m'aimer sans entendre ma prière et me délivrer ? Où est Dieu quand j'ai besoin de lui ? Comment puis-je être chrétien ?» Maintenant, écoutez attentivement. Les personnes qui pensent ainsi se condamnent non seulement à un manque d'assurance, mais il manque la source d'assurance la plus forte. Vous dites, que voulez-vous dire par là ? Écoutez simplement. Il manque la preuve d'assurance la plus solide. Vous dites, qu'est-ce que c'est ? La foi testée. Si quand j'ai des épreuves et des ennuis, que les choses ne se passent pas comme je le veux, je remets en question Dieu. Je remets en question son amour. Je remets en question mon salut. Et tout cela fait en sorte que, non seulement je perds mon assurance, mais j'échoue au test qui pourrait être pour moi la preuve la plus solide de mon assurance. Dans Romains, chapitre 5 et verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Pourquoi ? Parce que les ennuis apportent de la persévérance. Un caractère éprouvé par la persévérance et un caractère éprouvé produit quoi ? L'espoir. Si j'ai un solide espoir de mon héritage éternel, j'ai l'assurance. Où puis-je obtenir cet espoir ? Quand ma foi est testée et éprouvée. C'est une si grande vérité, une vérité si essentielle. Considérez cela comme une joie, mes frères, dit Jacques, lorsque vous rencontrez diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit de l'endurance, que l'endurance a son résultat parfait, afin que vous soyez parfait et complet, ne manquant de rien. Je vais vous dire que les épreuves de la vie ne devraient jamais vous faire douter du salut de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu en Christ. Ils vous sont simplement donnés comme des tests pour prouver son amour, pour prouver sa puissance en votre faveur. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver, jusqu'à la fin, une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dieu nous met à l'épreuve, Dieu nous met en difficulté. Nous devons être diligents, nous devons endurer, nous devons être patients. Le résultat, une pleine assurance d'espoir. Les procès sont le creuset même dans lequel l'assurance se forme. Maintenant, permettez-moi de vous donner l'illustration classique, absolument magnifique. Romains chapitre 8, verset 38. C'est tellement puissant. Écoutez ce que Paul dit. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, vous le savez. » Et dites, « Ah, c'est super, je connais ce verset. » Maintenant, écoutez ce que je dis. Paul dit, « Je suis convaincu, je suis absolument convaincu qu'aucune de ces choses ne peut nous séparer. » Revenez au verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation ? La détresse ? La persécution ? La famine ? La nudité, le péril ou l'épée ? Comme il est écrit, « Pour toi, nous sommes mis à mort toute la journée. » Nous étions considérés comme des brebis à l'abattoir. Mais dans toutes ces choses, nous avons conquis massivement par celui qui nous a aimés. Je suis convaincu. Maintenant, écoutez attentivement. Qu'est-ce qui a convaincu Paul de la sécurité de son salut? Qu'est-ce qui l'a convaincu et lui a donné l'assurance? Qu'est-ce que cela? Il vient de vous le dire. Maintenant, écoutez bien. Il avait fait l'expérience de tout ce qu'il venait de mentionner. L'avez-vous remarqué? C'était sa propre expérience de la tribulation, sa propre expérience de détresse, de persécution, de famine, de nudité, de péril, d'épée, de mort, de vie, d'ange, de principauté, de choses présentes, de choses à venir, de pouvoir, de hauteur, de profondeur, de choses créées. Il a traversé tout cela. Rien de tout cela ne l'a fait douter. Je veux vous dire quelque chose. Les épreuves deviennent la source de votre plus grande confiance. Je vous l'ai dit il y a quelque temps, quand Marc a eu cette tumeur au milieu de son cerveau, et nous traversions un temps de prière et de jeûne, j'apprenais à m'appuyer sur le Seigneur à cette époque, et comment Dieu, dans sa grâce, m'a fait livrer un sandwich pour rompre le jeûne, que j'ai vu la main de Dieu dans ma tribulation comme je n'avais jamais vu sa main dans ma prospérité. Ce sont des choses qui m'assurent, quand le Seigneur, dans sa providence, j'étais dans mon bureau, après 9 jours de jeûne, assis à mon bureau, jeûnant et priant, quand j'ai ressenti la libération de l'esprit, et juste ce sentiment que je devais rompre ce jeûne. Pour la première fois, j'avais faim, et j'avais cédé Marc à Dieu. S'il voulait le prendre avec une tumeur au cerveau, cela allait, c'était le dessein de Dieu. J'ai senti la paix dans mon cœur, j'ai même ressenti de la joie dans mon cœur, j'étais prêt à manger, et j'ai juste dit, « Seigneur, je ne sais pas comment rompre le jeûne. » Et en 15 minutes, quelqu'un est entré et m'a livré un sandwich, et il ne connaissait même pas la situation. Je savais que Dieu était impliqué dans ma vie. Je me souviens être allé dans une pièce au-dessus de la chambre, au coin du feu, une nuit. Une fille était remplie de démons, et quand je suis entré, l'un d'eux a commencé à crier, « Sortez-le, pas lui, sortez-le, pas lui !» Puis elle a commencé à me donner des coups de pied jusqu'à ce qu'il saigne, avec cette force qu'elle avait. Ce fut une soirée très intéressante. Ma première réaction a été de partir en disant, « Bien sûr, vous ne voulez pas de moi, je m'en vais, je n'ai pas besoin de cela. » Ma deuxième réaction a été un sentiment formidable, que je suis ici au corps à corps avec des principautés, avec des êtres démoniaques, et ils savent de quel côté je suis. C'est au milieu de ce genre de choses que vous avez ces formidables témoignages de la réalité de votre salut. Dieu l'affirme à cette époque, Paul dit. J'ai traversé tout cela, et je suis vainqueur. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Ce n'est pas seulement le fait qu'il est écrit dans la parole. Il a été testé. Quand on marche avec Dieu, dit Ironside, et quand on apprend à souffrir et à endurer, en voyant celui qui est invisible, les choses éternelles deviennent plus réelles que les choses concernant le temps et les sens, qui sont primordiales pour le simple homme naturel. Ainsi vient au cœur un calme confiant, une pleine assurance, basée non seulement sur la parole révélée, mais sur une connaissance personnelle de la communion avec Dieu, qui donne une confiance implicite quant à cette vie présente et à tout ce qui nous attend. Fin de citation. J'en avais 2 de plus, mais je vais devoir les partager la prochaine fois. Prions. Père, nous te remercions de nous avoir donné un salut sûr, que nous puissions être rassurés. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont dans la foi, mais ne peuvent pas en avoir l'assurance. Nous prions pour qu'ils ne soient pas laissés, pour ainsi dire, sans assurance, mais pour qu'ils aient confiance en leur foi. Merci de nous avoir donné un salut éternel, de nous donner des raisons d'être assurés en lui. Et aide-nous à savoir que les tests et les épreuves sont la plus grande source de la confiance personnalisée que nous t'appartenons, parce que nous voyons si clairement ta main au milieu de ces choses. Merci pour le témoignage de Paul qui a pu dire « Je suis convaincu parce que j'ai tout vu, et rien de tout cela ne l'a séparé de l'amour de son Christ. Montre-nous suffisamment d'épreuves pour que nous puissions voir ta main et avoir toujours confiance que nous sommes à toi pour la gloire de Christ. Amen. »
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.